Fréquence Europe, l'émission des radios Judaïca réalisée avec l'Europe Direct de Strasbourg. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission Fréquence Europe, l'émission européenne des radios Judaïca, Strasbourg et Bruxelles. 10 jours avant la date de sortie officielle du Royaume-Uni de l'Union européenne, le temps presse. Pourtant, les députés britanniques demandent encore du temps pour étudier le deal trouvé avec l'Union européenne. Boris Johnson, à contre-cœur, a formulé une demande de report de la date de sortie de son pays. Alors, reporter ou ne pas reporter, telle est la question qui se pose désormais au 27. Alors que se tient la session plénière du mois d'octobre du Parlement européen, les députés débattront également de cette situation, sachant qu'au bout du compte, ce sera bien le Parlement européen qui aura le dernier mot pour approuver ou non cet accord après la Chambre des communes et du Parlement britannique. Alors, hormis le Brexit, d'autres sujets d'actualité s'invitent dans les débats parlementaires. L'ouverture ou non des négociations d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine du Nord. Alors que pour l'instant, les États sont divisés sur la question, c'est aussi les parlementaires, eux, qui nous donneront leur position au cours de cette session. On parlera aussi des opérations militaires turques dans le nord-est de la Syrie. Les députés demandent aussi plus de solidarité entre les États membres pour le sauvetage des migrants. On parlera aussi d'urgence climatique. Vous voyez, la session est chargée. Alors, à l'occasion de cette session, nous avons le plaisir de recevoir la toute nouvelle députée européenne belge, Saskia Briquemont. Bonjour.
Bonjour.
Alors, merci d'avoir accepté de participer à notre émission. Avant de dialoguer avec vous, je vous propose tout d'abord d'écouter Emmanuel Stoll qui présente votre parcours sous la forme d'un petit portrait.
Alors, bonjour à tous. Bonjour, Madame Briquemont. Alors, vous êtes née en 1985 à Tournai. Alors, je précise que c'est en Belgique pour nos auditeurs français. Vous venez d'être élue députée européenne sur la liste du parti Écolo, avec Philippe Lambers, coprésident du groupe des Verts ici au Parlement européen. Vous avez étudié les sciences politiques et les relations internationales à l'Université libre de Bruxelles. Vous avez obtenu un master en études européennes. Après un passage à Montréal et Madrid, vous débutez votre carrière professionnelle au Parlement fédéral comme conseillère politique sur les questions européennes et internationales pour les députés écolo-grun. Vous avez également quelque temps travaillé auprès de la ministre de l'Environnement, Evelyne Wittebrock. On vous retrouve ensuite dans le développement territorial de la Wallonie-Picarde, notamment comme point de contact de l'Eurométropole, région transfrontalière avec Lille et Courtrai. En 2012, vous êtes élue conseillère communale à Hatt, donc dans la région de Tournai. Puis, après un premier échec aux élections européennes en 2014, le parti écolo n'obtenant qu'un seul siège, vous serez finalement élu cette année en 2019, grâce au très bon score des écolos, même si votre parti ne réalise pas les performances que les prédisaient les sondages après les manifestations en faveur du climat. Vous avez choisi de siéger au Parlement européen au sein de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, et dans la délégation des relations avec les pays du Maghreb. J'espère que je n'ai rien oublié.
Je suis aussi dans la commission commerce international et coprésidente de l'intergroupe des droits de l'enfant.
D'accord, ben c'est noté. Merci.
Merci à vous.
On va revenir peut-être sur les droits de l'enfant sur un autre sujet après, mais avant de commencer, pourquoi ce choix de l'Europe ? On a l'impression que dans votre parcours, très vite l'Europe arrive avec vos études. Et là, le choix, ça a toujours été l'Europe.
C'est vrai que l'Europe a été un peu un fil continu pendant tout mon parcours, mais sans que ce soit un objectif en soi. J'ai toujours été intéressée par le lien que l'on peut faire entre l'action locale, et donc là, je l'ai traduit en étant candidate aux élections communales, et l'action européenne, parce que les choix que l'on fait en tant que législateur européen influencent directement le niveau local. Et mon étape, vous l'avez dit, en tant que responsable du développement territorial dans une intercommunale de développement qui touche tant au développement économique, énergétique, d'aménagement du territoire, etc., m'ont vraiment montré à quel point les décisions européennes influencent directement les capacités qu'ont nos territoires à agir, et notamment via tous les fonds européens, fonds FEDER, développement régional, le fonds social européen, les programmes Interreg qui permettent une collaboration entre les pays de l'Union européenne et qui, sans ça, les territoires ne pourraient pas mener toute une série de politiques énergétiques, de mobilité, d'aménagement qu'ils mènent aujourd'hui.
Alors revenons aussi sur les élections européennes. Comment analysez-vous les résultats finalement en Belgique pour les Verts, pour les écolos et aussi au niveau européen finalement? Est-ce que vous sentez qu'il y a un élan autour de l'écologie, mais surtout autour de votre parti ?
Donc, effectivement, dans certains pays européens, parce que malheureusement, dans les pays du Sud et de l'Est, c'est moins le cas, mais la vague verte a bien eu lieu dans la plupart des pays. Enfin, quand on prend l'Allemagne, la France ont doublé leur score et leur représentation, la Belgique aussi. Et on a surtout, bon, le soir des élections, le bémol était sur le fait que l'extrême droite progressait aussi. Mais elle n'a pas non plus progressé autant que ce qu'on aurait imaginé. Donc c'était, entre guillemets, la bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle. Mais on voit quand même qu'il y a une polarisation. En Autriche, c'est la même chose. En Suisse, les Verts ont percé aussi. Et ils percent là où les Verts portent un discours d'avenir, avec des solutions d'avenir liées à la transition énergétique climatique de nos sociétés. Des valeurs démocratiques aussi, qui insistent très fort sur le respect des droits humains, qui malheureusement, quand on regarde un peu le bilan global au niveau de l'Union européenne et au-delà, sont en recul. Et donc là, je pense que c'est là que les Verts font la différence, dans un projet porteur d'espoir face à une déferlante négative qui a plutôt tendance à rejeter les personnes les unes contre les autres. Et c'est aussi le grand message du mouvement climatique porté par les jeunes.
Vous l'avez dit, hein, dans le Sud et dans l'Est, c'est un peu moins le cas. Pourtant, là, actuellement, il y a un maire vert qui a été élu à Budapest, Monsieur Karácsony, si je ne me trompe pas, qui, lui, a été élu. Donc, est-ce que vous sentez un côté vert, ou est-ce que c'est le côté vert, ou c'est plutôt le côté politique sur les valeurs qui a fait que lui ait été élu à Budapest, à votre avis?
Donc, il a effectivement été élu sur base d'un programme et d'un discours très lié à l'écologie, mais aussi à des prises de position démocratiques qui font la différence sans doute en Hongrie par rapport à la tendance générale. Et donc, à nouveau, c'est deux confrontations du monde, en fait, qui s'opposent. Et on le voit, les gens sont aussi en attente de leaders politiques et de personnalités politiques qui portent un vrai projet de société. Et je crois qu'il a, dans sa campagne en tout cas, était capable de montrer la voie qu'il veut emprunter, et il a été élu sur cette base-là.
Alors, les Verts sont désormais la quatrième force politique du Parlement européen. Vous n'avez pourtant pas encore de commissaire européen vert, ni un chef d'État vert. Pensez-vous avoir les moyens de faire passer quand même vos idées et verdir l'Europe dans ces différentes politiques, comme vous le souhaiteriez, malgré, je dirais, le fait que vous soyez quand même encore minoritaire?
Pas assez fort, pas assez vite, c'est sûr, mais on a quand même doublé notre représentation aussi chez les Verts. Donc on est passé à 75 élus. Avec 75 élus, on peut déjà quand même influencer les politiques. Contrairement aux parlements nationaux, il n'y a pas un jeu de majorité contre opposition, donc on n'est pas l'opposition au Parlement européen. On est en quelque sorte devenu une opposition constructive. On avance là où on peut avancer, on trouve des majorités pour avancer sur les dossiers, on influence les politiques très clairement. Maintenant, au lendemain des élections, l'ambition était que les quatre grands groupes politiques négocient une espèce d'accord de gouvernement, en tout cas une feuille de route qu'on devait livrer à la Commission européenne. Finalement, les trois autres groupes n'ont pas joué le jeu jusqu'au bout, ni le Conseil européen, donc les États membres n'ont pas joué le jeu du Parlement jusqu'au bout. Ce qui pour moi était un mauvais signal vers la seule Assemblée élue. L'idéal aurait été que les quatre grands groupes parviennent à un accord, qui soit la feuille de route de Mme von der Leyen, et que sur cette base-là, elle désigne ensuite ses commissaires pour constituer sa commission européenne. Malheureusement, c'est d'abord le casting qui a été choisi avant le projet.
Et on voit les difficultés que ça pose aussi, même dans les auditions des commissaires. Alors, vous débattrez sur l'urgence climatique et écologique, comme je le disais en présentation. Qu'attendez-vous de la nouvelle commission, ou si vous avez écouté Mme von der Leyen, est-ce que vous pensez qu'on parle sur quelque chose de positif quand même au niveau du changement climatique et de la lutte contre le réchauffement climatique?
Alors, dans la lettre et dans les auditions de certains commissaires, l'ambition affichée est là. Je pense particulièrement à M. Timmermans, qui a dans son portefeuille le Green New Deal et qui est censé être une démarche transversale à l'ensemble de la Commission. Et donc c'est là que, d'un point de vue opérationnel, il faudra voir comment il se débrouille. Est-ce qu'il arrivera à faire en sorte que chaque commissaire, dans ses matières, intègre les aspects climatiques et les objectifs qu'on s'est fixés, donc de réduire de 55% nos émissions, sachant qu'on doit même aller au-delà. Et là, l'ambition n'y est pas, au niveau de la Commission actuellement en tout cas. Et pour avoir auditionné, par exemple, le commissaire au commerce, M. Hogan, moi, il ne m'a absolument pas convaincue sur son ambition en matière climatique, alors qu'on sait que le commerce est largement contributeur aux émissions de CO2, etc. Il n'y a pas de volonté de changer de modèle. Idem au niveau agricole. Pour l'instant, tel que ça se dessine, on repart vers une politique agricole commune telle qu'elle est sur la table aujourd'hui et qui, elle aussi, est largement contributrice au réchauffement climatique. Émissions de gaz à effet de serre, utilisation de pesticides et autres. Donc, il faut voir parce qu'aujourd'hui, il y a des contradictions entre les objectifs annoncés, la volonté de transversalité au niveau du Green New Deal, mais des politiques sectorielles qui ne permettront pas d'atteindre les objectifs tels que c'est actuellement sur la table.
Comme on l'a dit, il va falloir quand même trouver des compromis, donc il va falloir quand même faire que vos attentes soient prises en compte aussi pour pouvoir faire passer la législation européenne et la faire avancer dans le futur. Ouais. Alors vous siégez-vous dans la commission Libé ? Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. C'est donc dans cette commission que l'on traite des questions de l'état de droit, dont on parlait avant, des questions migratoires. C'est aussi dans cette commission qu'a été auditionnée et approuvée la candidature du futur commissaire belge Didier Reynders, qui sera en charge de la justice. Alors que pensez-vous de cette candidature de cet homme politique très connu en Belgique? Et déjà, qu'est-ce que vous pensez de cette audition? Et vous, personnellement, l'avez-vous approuvée?
Alors, en audition, M. Reynders a fait le job. Il a répondu à toutes les questions. Il a montré qu'il maîtrisait les sujets qui lui sont attribués. Il s'est montré volontariste sur l'état de droit, sur le fait de travailler en faveur de la protection des consommateurs. Il a été interrogé par notre groupe, notamment sur les questions d'obsolescence programmée et de prolongation de garantie. La volonté aussi de s'ouvrir et de proposer des démarches d'action collective en matière d'inaction climatique, donc de permettre aux citoyens de déposer des plaintes collectives, des recours collectifs. Donc il y a une série de propositions proactives finalement dans son portefeuille et dans la manière dont il a présenté ses compétences qui étaient intéressantes. Alors, en tant que Belge, moi, j'ai évidemment tout le suivi de la politique qu'il a menée en tant que ministre, puisqu'il a une longue carrière au niveau politique belge. Et là, en tant qu'écolo, on a mené une opposition assez dure vis-à-vis de.
On peut rappeler qu'il était ministre des Affaires étrangères dernièrement.
Dernièrement, ministre des Affaires étrangères. Et donc, c'est vrai qu'il y a une série de dossiers, mais il n'a jamais été poursuivi. Donc, la présomption d'innocence prévaut. Et ça, on y tient aussi. Mais au niveau fédéral notamment, on a mené pas mal de travaux dans le cadre d'affaires dans lesquelles son nom est apparu, Kazakh Gate, l'affaire des fonds libyens et d'autres. Donc on a suivi de très près. Maintenant, à nouveau, la présomption d'innocence prévaut. Donc la commission jury, qui est la commission qui contrôle des conflits d'intérêts des commissaires avant qu'il y ait les auditions, a fait son travail et a laissé passer M. Reynders.
Elle l'avait fait aussi pour Sylvie Goulard et ce n'est pas passé après.
Et ce n'est pas passé après parce que enfin voilà, il y a des choses qui lui ont
qui nous ont été reprochées.
Oui, on pourra en parler. Mais effectivement. Mais donc, il a passé le cap de la commission jury. Maintenant, nous, on plaide aussi en tant qu'écolo pour que cette commission jury soit remplacée par une espèce de comité permanent de contrôle des conflits d'intérêts pour tous les élus, commissaires et parlementaires. Je pense que ça manque encore au niveau européen.
Il y a pas mal. Finalement, vous êtes assez suivi, hein, puisque je crois qu'il y a la GUE aussi en faveur, et même le nouveau groupe Renew.
Oui, parce qu'ici, on est dans un processus très politique. Et finalement, ce n'est pas très sain que les politiques jugent les politiques, puisque du coup, il y a des jeux de « Ah bah si tu fais tomber mon candidat, je vais faire tomber le tien ». Ça rime pas vraiment à un processus.
Une sorte de comité ad hoc avec un comité des sages, c'est ça?
Voilà, ou d'experts, ou de juristes, ou d'avocats, à voir comment ça peut être mis sur pied.
Alors, quand on pense aussi à la commission Libé, on pense aussi à ce qui se passe en Catalogne. Vous avez même des élus actuellement catalans, qui, je crois, un élu qui n'a pas été encore accepté par le. Il doit prêter serment et donc il n'est pas encore avec vous. Dans votre groupe politique, comment vous jugez ce qui se passe en Catalogne? C'est la première question. Et ensuite, finalement, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une sorte de situation où on voit qu'avec la Hongrie, la Pologne, on est assez sévère, mais que finalement, avec l'Espagne, on est un peu plus laxiste au niveau européen, ou en tout cas, on laisse passer plus de choses?
Donc effectivement, on a un élu qui vient d'être condamné à 12 ans de prison. Pour actes qualifiés de terroristes par l'État espagnol, enfin, par la justice espagnole. Effectivement, donc il y a peut-être du deux poids deux mesures. Il y a aussi un paradoxe, je trouve, parce que je suis pas là depuis longtemps, mais je constate qu'on adopte facilement des résolutions, et c'est nécessaire, pour parler de situations à l'étranger. Aujourd'hui, demain, on débattra de la situation de la Syrie et de l'offensive turque. Où l'Union européenne, on lui demande de prendre position dans des dossiers de relations extérieures, des affaires étrangères. Et ici, quand il s'agit d'un État européen, les prérogatives de l'État prévalent. Et donc, on ne peut pas s'immiscer dans les affaires intérieures d'un pays. Or, aujourd'hui, je crois qu'il est de la responsabilité de l'Union européenne d'en tout cas entamer un processus de médiation, de dialogue, de jouer la diplomatie entre Madrid et la Catalogne, parce que je ne vois pas d'issue positive à la situation. Aujourd'hui, des milliers de personnes sont dans la rue pour protester en disant « on restera jusqu'à ce que nos prisonniers soient libérés ». Je pense que l'affaire va se polariser davantage et je crains que ça se radicalise davantage aussi. Aujourd'hui, c'est un mouvement qui se veut non-violent. Mais on a vu aussi que du côté espagnol, les violences policières sont réelles. Et pas qu'en Espagne, ça je tiens à le souligner aussi. Enfin, en Belgique, il y a eu des violences policières à l'égard du mouvement Extinction Rebellion qui était pacifiste. Il y avait des enfants dans le groupe. En France, pas mal de violences policières aussi à l'égard des Gilets jaunes et autres. Je pense que là, il y a des dérives auxquelles on doit être attentive et contre lesquelles l'Union européenne doit à un moment donné prendre des positions.
L'Union européenne et le Conseil de l'Europe qui est juste à côté pourraient aussi intervenir.
Et le Conseil de l'Europe pourrait aussi jouer ce rôle de médiateur ou les qualificatifs à avoir, mais en tout cas jouer un rôle diplomatique de dialogue pour apaiser la situation et permettre aux deux parties de discuter sereinement, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sérénité dans cette situation et chacun campe sur ses positions et on n'arrivera pas à un accord.
Alors continuons, vous en avez parlé, vous avez débattu de ce qui se passe en Syrie, hein. Ça fait partie, comme vous l'avez dit, des prérogatives qu'a le Parlement européen de faire des résolutions sur ce qui se passe à l'extérieur. Là, vous allez débattre de l'intervention turque donc en Syrie, Syrie du Nord-Est. Déjà, quel est votre avis, vous, sur la situation? Qu'est-ce que l'Union peut faire? Quels sont les moyens de pression contre la Turquie? Et ensuite, que doit faire l'Union européenne par rapport au rapatriement des enfants, de Syrie et d'Irak, qui sont des enfants d'Européens qui sont sur place? Alors, j'aimerais avoir vos deux positions sur les deux sujets. D'abord, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la Turquie? Et la deuxième, qu'est-ce qu'on fait finalement de la situation qui s'envenime pour ces enfants-là?
Donc, on a largement condamné l'offensive turque. C'est évident contre les Kurdes qui ont aidé l'Union européenne aussi à lutter contre Daesh et à assurer des positions sur place qui n'étaient pas faciles à tenir. Et aujourd'hui, on voit que l'Union européenne est très faible, très, très passive dans ce dossier, alors qu'elle a des leviers à l'égard de la Turquie. La Turquie qui actionne ses leviers de son côté pour menacer d'ouvrir les vannes et de lâcher les millions de réfugiés.
Il y en a près de 3 millions.
De migrants, plus de 3 millions de migrants qui jusque-là, qu'elle a entre guillemets contenue jusque-là, dont elle s'est occupée jusque-là, au travers de ce fameux deal avec l'Union européenne a passé avec Erdogan. Et que les Verts dénoncent depuis le début en disant on ne peut pas passer ce genre d'accord, et encore moins avec un régime dictatorial comme celui d'Erdogan. Et aujourd'hui, on est vu parce qu'il utilise une forme de chantage finalement à l'égard de l'Union européenne pour ne pas que l'Union européenne intervienne dans ce que Erdogan qu'on estime comme une attaque légitime de son territoire. La question des migrants est double parce qu'il y a cette question des relations avec l'Union européenne et il y a aussi sur place la volonté d'Erdogan de déplacer des camps de migrants et donc de créer des mouvements de population, des mouvements démographiques qui sont totalement contraires aux conventions internationales des droits de l'homme, puisque le risque, c'est de renvoyer des personnes en Syrie, des personnes qui ont fui la Syrie à un moment donné, et donc de les forcer à un retour en Syrie où elles ne seraient pas plus protégées. Donc il y a vraiment une problématique humanitaire qui se rajoute à la problématique militaire de l'offensive aujourd'hui. Il y a des leviers, notamment de sanctions économiques possibles de la part de l'Union européenne. Je pense que l'Union européenne doit davantage aller au bout des choses et ne pas céder au chantage de quelqu'un comme
Erdogan. Elle l'a fait pour la Russie, on pourrait imaginer qu'elle le fasse pour la Turquie.
Et alors, sur la deuxième question, finalement, donc depuis des mois, même des années, et le gouvernement belge s'est engagé aussi à rapatrier les enfants, qui sont donc des enfants de combattants partis combattre en Syrie et en Irak, qui aujourd'hui sont en Syrie et en Irak dans des camps et dans des conditions humanitaires déplorables. Donc Bernard De Vos, avec qui je travaille depuis plusieurs mois, qui est délégué général aux droits de l'enfant en Belgique francophone, et d'autres, hein, et d'autres acteurs comme Child Focus, la Croix-Rouge, sont très actifs et dénoncent depuis longtemps le fait qu'on laisse mourir des enfants européens dans ces camps syriens et irakiens. La majorité d'entre eux, pour les Belges en tout cas, ont moins de 5 ans. Donc on parle de 69 enfants, dont la majorité a moins de 5 ans. Donc ce ne sont pas des enfants, à ce stade en tout cas, radicalisés ou qui risquent de l'être à court terme. Les services d'aide à la jeunesse en Belgique ont annoncé qu'ils étaient prêts à accueillir ces enfants et à tout mettre en œuvre pour les encadrer. Les familles sont prêtes à les récupérer aussi ici et à s'en occuper. Mais je sais qu'au niveau des gouvernements, toute la difficulté se situe aussi au niveau du rapatriement des mères. Et là, c'est l'opinion publique qui l'emporte. Et comme l'opinion publique est défavorable, le politique ne prend pas ses responsabilités. Et on voit aujourd'hui qu'avec l'offensive turque, non seulement il y a des raisons humanitaires qui sont évoquées et qui sont encore toujours là, parce que les petits bouts, ils ne passeront pas l'hiver, ils sont en état de malnutrition chronique, de diarrhée chronique, donc dans des conditions de santé qui sont très 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 avancées pour des enfants. Mais donc avec l'offensive turque, s'ajoutent aujourd'hui des composantes sécuritaires, et elles sont sérieuses. Et il y a, au-delà du secteur des ONG, l'OCAM, qui est l'organe de sécurité en Belgique, le parquet fédéral aussi, se sont exprimés pour dire « il est temps et urgent de rapatrier les adultes pour des raisons sécuritaires ». Parce que si on ne garde pas un contrôle de ces personnes, si elles repartent dans la nature parce qu'elles sont, entre guillemets, libérées des camps à cause de l'offensive turque, ce sont finalement des bombes à retardement. Et des personnes qui risquent de rejoindre les rangs de Daesh, de l'État islamique, qui n'est pas mort, ou d'autres groupuscules radicalisés. Et donc, il y a des vrais enjeux sécuritaires, tant pour nous, citoyens européens, que sur place.
On va terminer sur une note un peu plus positive, avec une petite rubrique qu'on va lancer tout de suite.
Je vais passer la parole dans le cadre de Catch the Eye.
Catch the Eye.
Catch the Eye.
We now move to Catch the Eye.
Alors, la rubrique s'appelle Catch the Eye, qui est une procédure interne au Parlement européen où les personnes ont un temps limité pour prendre la parole en session. Là, c'est des questions courtes, des réponses courtes, mais sur des sujets un peu plus légers. Avez-vous un modèle en politique, une personnalité de référence?
J'ai beaucoup de modèles, en fait, et ils sont très féminins. J'en citerai un, c'est par exemple Vandana Shiva, qui est une militante écologiste et qui a porté le combat écologiste et féministe très haut, très fort. Et donc, ce sont généralement des figures engagées et qui ont allié un retour, entre guillemets, à la nature, mais en tout cas une analogie entre nos besoins en tant qu'humains et la manière dont la nature fonctionne. Et je pense que mon double engagement féministe et écologique vient notamment de personnalités comme elle, comme la sienne.
Alors, le Parlement européen fonctionne en 24 langues. Vous en avez une de préférée, hormis votre langue maternelle?
La seconde langue nationale belge est le néerlandais, donc je le pratique aussi régulièrement à la maison, donc c'est un peu en moi. Après, il y a aussi une troisième langue en Belgique qui est l'allemand, que je comprends et que je baragouine, je ne suis pas vraiment bilingue. L'anglais, évidemment, l'espagnol, j'aime beaucoup les langues. C'est vraiment pour moi une ouverture sur le monde qui est fantastique, et j'aimerais tellement que nos systèmes éducatifs renforcent l'apprentissage des langues dès la petite enfance, parce que c'est tellement facile chez les enfants, ça vient comme ça, alors que nous, adultes, on a un peu plus de mal à...
Ça demande plus de travail.
Voilà, à se diversifier.
Et quel est, alors là, on va sur totalement un autre sujet, quel est votre plat préféré?
Mon plat préféré?
Oui,
je ne m'attendais pas à cette question-là.
C'est pour mieux vous connaître. On a fait votre portrait qui était plutôt votre parcours, et maintenant on termine en essayant de mieux vous connaître après vous avoir entendu.
Eh bien, moi, j'aime beaucoup les poissons grillés. Je n'ai pas beaucoup l'occasion d'en manger parce que, enfin voilà, moins d'aller à la mer du Nord. Mais c'est mon petit plaisir souvent de vacances, les plats de poissons grillés.
Et on terminera. Avez-vous un conseil de lecture, un conseil d'une expo ou d'un film ou d'une série à voir à conseiller à nos auditeurs? Quelque chose que vous avez aimé, que vous aimeriez partager?
De récent, je suis occupée de lire le dernier livre de Myriam Leroy, qui a vécu une situation de harcèlement en ligne. Et c'est très présent dans le débat en Belgique pour le moment, la question de la place des femmes et la lutte contre le sexisme. Il y a eu toute la vague MeToo au Parlement européen l'année passée qui a donné lieu à différentes mesures, notamment la mise en place d'une formation contre le harcèlement. Et nous, chez Les Verts, on s'est imposé d'y aller, d'y participer. Et donc voilà, cette lecture est intéressante parce que c'est une approche différente de la situation et qui illustre des problématiques que finalement, en tant que femme, on vit au quotidien.
Alors, je vous remercie, Madame Bricmont, pour nous avoir consacré un peu de votre temps ici au Parlement. Merci de nous avoir écoutés. L'émission sera rapidement en podcast sur le site de la radio. À bientôt pour une nouvelle émission Fréquence Europe. À bientôt.